Le pacte vert, il est effectivement très radical. Mais qui parle des voies de soutien, des voies d'accélération qu'il comporte? On ne regarde que ce qui est contraignant, que les nouvelles règles, que le fait de plus pouvoir conduire sa voiture au gasoil, mais qui regarde toutes les mesures, tous les milliards qui sont mis pour pouvoir permettre aux entreprises de se transformer, de grandir, de construire de nouvelles activités qui protégeront nos espaces naturels, qui protégeront nos enfants. Ça, on ne le regarde pas. Et pourtant, c'est un projet économique et donc qui embarque toute cette logique financière, toute cette logique, je dirais, de croissance, même si la croissance est vue à l'aune de nouveaux critères.
Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure.
Experts en la matière.
Aujourd'hui, nous recevons Chloé Coursager. Bonjour.
Bonjour.
Chloé Coursager, vous êtes la directrice de l'agence de conseil en transformation Circomplex qui accompagne les entreprises face aux mutations économiques, environnementales et sociales en mobilisant les disciplines de la recherche, de la stratégie, de l'information et du design. Nous vous recevons aujourd'hui pour discuter du Green Deal, autrement appelé Pacte vert européen, qui a été officiellement lancé en 2021. Nous parlerons de ses objectifs et nous verrons en quoi l'ensemble de ces mesures peut être un levier de développement pour les TPE-PME. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle est la philosophie générale du Pacte vert européen ?
Le Pacte vert, ou le Green Deal, c'est un très ambitieux plan de transformation que mène l'Europe pour faire bifurquer l'ensemble de son économie. C'est un plan qui comporte de nombreuses mesures, à la fois des mesures incitatives et des réglementations contraignantes, un paquet de règles qui doivent nous permettre en premier lieu de respecter les accords de Paris, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais plus largement, moi je le vois comme un New Deal, un changement radical des règles de compétitivité qui vont conduire tous les acteurs à s'adapter aux objectifs environnementaux. C'est en cela que c'est une mutation majeure et l'Europe joue finalement plusieurs batailles avec le pacte vert. D'abord sa stature sur l'échiquier international, elle entend bien remporter le leadership de la transition verte, et puis sa compétitivité économique et industrielle, parce que finalement elle entend fabriquer les leaders de l'économie de demain, celle qui sera décarbonée. Et puis elle défend aussi son économie d'aujourd'hui avec des mesures qui apparaissent à l'international comme extrêmement protectionnistes. On dit même en Angleterre que l'Europe a des pratiques qui sont encore plus contraignantes que l'Inflation Act américain, puisque l'ensemble de ces normes impose à tous les acteurs qui veulent travailler en Europe des contraintes, des exigences environnementales qui sont très très fortes.
Quelles sont les réglementations directement issues du Green Deal qui sont déjà en vigueur pour les entreprises ?
Alors, il y en a peu finalement qui sont en œuvre. Mais elles arrivent très très vite. Je peux en citer trois. Toutes les mesures qui touchent à l'énergie, le marché de l'énergie, la production, les types de carburants. Donc là, il y a une série de mesures qui amènent à réduire et arrêter le diesel, à passer sur les carburants verts, à développer l'ensemble des énergies renouvelables, donc ce qui relève de l'énergie. Ensuite, il y a ce qui relève des émissions carbone. Donc, comment on réduit les émissions carbone? C'est l'efficacité énergétique de certaines industries, c'est le contrôle de leurs émissions et c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est entré en vigueur en partie au mois d'octobre. Donc, on se protège des importations de produits qui ont suscité des pollutions jugées trop importantes. Et puis le troisième volet qui vient d'entrer en vigueur dans les grandes entreprises de plus de 500 salariés, c'est la fameuse CSRD, dont on parle beaucoup, qui les contraint à un reporting extra-financier, c'est-à-dire à déclarer l'ensemble de leurs pratiques et comptes sur ce qui n'est pas financier mais environnemental et social, et qui les conduisent à interroger les plus petites entreprises sur leurs pratiques également, puisque sur cette fameuse CSRD, on compte à la fois ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on achète. Ce dont on parle moins, c'est finalement de toutes les mesures incitatives qui sont finalement le moteur de la transformation pour l'Union européenne. L'Union européenne lance des appels à projets, des financements attractifs, etc. Et pour ce faire, elle a conçu une sorte de grand répertoire des activités à soutenir ou à transformer qui s'appelle la taxonomie européenne. Cette taxonomie européenne s'impose aux financiers, aux assureurs, aux États, aux entreprises de toute taille et elle flèche l'ensemble de l'effort européen vers les activités qu'elle considère prioritaires.
Alors justement, quelles sont ces activités prioritaires ?
Les activités prioritaires sont jugées à l'aune de la criticité de la transformation. Ça va être soit des activités qui vont permettre d'accélérer la transformation écologique, soit celles qui sont dangereuses et qu'il s'agit de transformer. Il y en a 148 à date. Ça évolue en permanence. Et elles ont été identifiées parce qu'elles comptaient au regard de six objectifs, les six objectifs de l'Europe. Les six objectifs sont l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, l'eau, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, et enfin la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. La première chose à noter, c'est que ça va bien au-delà des gaz à effet de serre, et ça c'est un des gros points forts de la taxonomie européenne. Et par ailleurs, ça ouvre un champ d'activité qui est extrêmement large. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a 148 activités. Bientôt, il y en aura 200, 250. Il faut suivre en permanence. C'est particulièrement complexe, mais l'avantage de la taxonomie, c'est que c'est très business. Lorsqu'on a une activité jugée taxonomique, il y a des bonnes pratiques à respecter pour passer d'une activité éligible, donc qui est listée par la taxonomie, à une activité alignée. Et lorsqu'on est aligné, ça veut dire qu'on respecte les bonnes pratiques demandées par le régulateur européen et on fait partie des champions de l'économie européenne soutenue par tous. Il y a trois façons, ensuite, il y a trois critères qui permettent de passer de éligible à aligné. Et là aussi, il y a, je trouve, quelque chose de très intéressant. Le premier critère, c'est de compter parmi... d'être dans le répertoire. La deuxième, c'est de ne pas nuire aux objectifs, aux six objectifs. Donc même si on réduit la pollution de l'air, si on nuit à la biodiversité, on ne peut pas être aligné. Donc c'est très exigeant. Et enfin, le troisième critère, c'est de respecter les droits humains et les droits des travailleurs. Et donc la logique européenne est assez vertueuse.
Aujourd'hui, quelles sont les entreprises déjà concernées par cette réglementation et à quelle étape en sont-elles ?
C'est le même planning que la CSRD, c'est-à-dire que finalement, pour les grandes entreprises, pour les assureurs et pour les financiers, donc les banques et les investisseurs, cela s'impose depuis le 1er janvier 2024. Elles vont faire leur reporting, leur premier reporting officiel, l'année prochaine, début 2025, sachant que une grande partie d'entre elles ont commencé à s'y exercer de façon non contraignante les dernières années, et puis qu'au niveau de la taxonomie, tout n'est pas encore très clair, ce qui fait que les deux premiers objectifs sont obligatoires, les quatre suivants que je citais tout à l'heure ne le sont pas. Néanmoins, la logique de la taxonomie est ce que j'appelle systémique, c'est-à-dire qu'elle embarque tous les acteurs de l'économie. Puisqu'il s'agit de compter à la fois son chiffre d'affaires, ses investissements et ses dépenses, eh bien, tout fournisseur d'une grande entreprise, tout emprunteur d'une banque, tout assuré, ou toute entreprise qui cherche des financements va avoir intérêt à regarder s'il est éligible et aligné à la taxonomie parce que ça va devenir un argument très important par rapport aux grands établissements qui, eux, sont contraints de déclarer leur alignement taxonomique, et plus ils embarqueront des partenaires qui seront alignés, et plus leur note va augmenter.
Donc ça veut dire qu'en contrepartie de cette mesure contraignante, une entreprise bien notée au regard de la taxonomie sera plus attractive auprès des investisseurs, des partenaires d'affaires, et en quelque sorte va entraîner ces différents acteurs dans cette logique vertueuse.
C'est tout à fait ça. Et ce vaste mouvement est encouragé dans la réglementation financière, parce que si les financeurs travaillent sur des projets alignés à la taxonomie, ils vont pouvoir fabriquer des produits financiers qui seront très vertueux. Si les grandes entreprises font travailler des plus petits prestataires, ils vont gagner en performance également. Donc c'est effectivement tout à fait global, et les petites entreprises ont intérêt à s'y intéresser le plus vite possible, avant leurs concurrents et avant d'y être obligées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des incitations à tous les niveaux, financières publiques, financières privées, de compétitivité, etc. Demain, je gage que ça sera contraignant.
Concrètement, quels sont les risques ou les désavantages pour une PME à ne pas se préparer dès aujourd'hui à la taxonomie ?
La première chose, c'est que la règle du jeu change sur l'ensemble de l'économie. Moi, je compare ça à une nouvelle révolution industrielle. Donc, se cacher sous la table et attendre que ça se passe, ça ne fonctionnera pas. Il faut affronter ce genre de grandes mutations, et je pense même s'y engager, à la fois pour des raisons personnelles, d'engagement par rapport aux sujets environnementaux, de pérennité, de l'habitabilité de notre planète, mais aussi et surtout pour la pérennité de son économie par rapport à ses salariés et à ses partenaires. Au-delà de ces grandes considérations, de façon extrêmement pragmatique, dans les appels d'offres industriels désormais, le critère extra-financier, à la fois des indicateurs environnementaux et sociaux, et aussi taxonomiques, font partie de l'appel d'offres. Ce sont des critères qui interviennent pour certains à même hauteur que les prix. Donc ça, c'est pour les grands clients. Par rapport aux banques, désormais, vous voyez fleurir des prêts verts. Alors, ils ont fleuri avant même le nouveau prêt vert lancé par le gouvernement sur les sujets de rénovation, hein. Mais les prêts qui soutiennent des activités taxonomiques sont issus directement du Green Deal, puisque finalement, les banques empruntent moins cher si elles prêtent pour servir les objectifs européens. Il y a un autre élément, c'est que prochainement va sortir un grand répertoire européen où l'ensemble des entreprises vont déclarer leur alignement ou pas. Ce sera un peu comme un société.com. Quid si mon concurrent a une meilleure note que la mienne ? Par rapport au talent, par rapport à l'attractivité du recrutement, par rapport à mes partenaires, aux alliances possibles, au décalage éventuel entre déclaration d'engagement environnemental, mes déclarations RSE et la réalité de la mesure. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Donc le sujet est certes un peu abstrait, pas complètement obligatoire tout de suite, mais il va venir extrêmement vite.
D'un point de vue très opérationnel, quelles seraient selon vous les premières étapes à réaliser pour se préparer à cette réglementation ?
La première chose à faire, c'est de regarder son activité. La taxonomie ne travaille pas en fonction des codes NAF, mais en fonction des activités réelles. Et puis, il y a une petite différence entre son activité réelle et les sous-activités qui sont induites par mon activité principale. Il est possible qu'il y ait une partie de mon activité qui soit alignée. J'en sais rien, s'il y a une méthanisation par exemple d'une partie de mes déchets, peut-être que c'est une activité qui pourrait bénéficier d'un certain nombre d'avantages si elle était structurée comme telle et donc dissociée de mon activité principale. Donc on peut avoir des activités premières qui ne sont pas dans le registre et secondaires qui le sont, et il peut être intéressant de le structurer. Par ailleurs, il faut regarder ce que font les grands clients. Est-ce que mes grands clients vont être dedans ou dehors? Est-ce qu'ils présentent un risque à ce regard ou pas? Est-ce qu'ils vont être doublés par leurs concurrents ou pas? Donc il y a tout un sujet d'intelligence économique, de regarder à long terme. Et finalement, le long terme, c'est quelques mois, maximum quelques années. Donc il faut s'y en préoccuper dès à présent.
Pour terminer, la mécanique du Green Deal fait aujourd'hui l'objet de réticences. Il y a eu la colère des agriculteurs en janvier, qui a notamment ciblé le pacte vert. Dans le même temps, plusieurs chefs de l'État de l'Union européenne ont appelé à une pause réglementaire dans les mesures de décarbonation. Et tout ça, juste avant les élections européennes de juin prochain. Quel regard portez-vous sur l'avenir du Green Deal et la réalisation de son ambition originelle?
Moi, je crois qu'on tire sur l'ambulance. Le Green Deal, c'est un bouc émissaire bien facile. Il est abstrait, c'est loin, c'est compliqué, ça remet en question plein de choses, mais c'est nécessaire. Notre époque, elle est décisive, elle est complexe. Il y a des défis géopolitiques, économiques, sociaux, commerciaux, éthiques et évidemment environnementaux. Et comment faire, si ce n'est quand on est politique, de prendre ses responsabilités et comment faire sans agir? On ne peut pas rester là et attendre en protégeant son petit confort. Ça ne peut pas être consensuel et les débats démocratiques sont naturels et indispensables. Mais ce qui est ultra simpliste et dangereux, c'est de dénoncer l'Union européenne comme la mère de tous les maux. On le voit au Royaume-Uni, et les trois quarts des personnes qui ont voté pour le Brexit le regrettent. Le pacte vert, il est effectivement très radical. Mais qui parle des voies de soutien, des voies d'accélération qu'il comporte? On ne regarde que ce qui est contraignant, que les nouvelles règles, que le fait de plus pouvoir conduire sa voiture au gasoil, mais qui regarde toutes les mesures, tous les milliards qui sont mis pour pouvoir permettre aux entreprises de se transformer, de grandir, de construire de nouvelles activités qui protégeront nos espaces naturels, qui protégeront nos enfants. Ça, on ne le regarde pas. Et pourtant, c'est un projet économique et donc qui embarque toute cette logique financière, toute cette logique, je dirais, de croissance, même si la croissance est vue à l'aune de nouveaux critères. Donc moi, j'y crois beaucoup. Et je ne vois pas comment on pourrait s'en passer, et s'il fallait le faire, ça me semble extrêmement dangereux. Donc j'espère sincèrement que les électeurs et les parlementaires ne seront pas dupes. C'est crucial pour l'habitabilité de notre planète.
Merci Chloé Coursager. Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdecideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs est une production France Défi réalisée par Circomplexe.